Radio J.
Radio J. Vous écoutez Radio J, il est 21h. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8 en DAB+ et sur notre appli Radio J.
Radio J. Radio J.
Réfois, Serge et Nicolas Raffal. Radio J.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Réfois, le magazine de la santé de Radio J. Bonjour docteur Serge Raffal.
Bonjour Nicolas.
En pleine forme ?
En pleine forme.
Eh ben, j'espère, parce que notre émission va parler de la fatigue mentale aujourd'hui. On est heureux de recevoir à nouveau dans notre magazine le docteur Marine Colombel, psychiatre. Vous êtes également PH à l'établissement public de santé mentale Barthélémy Durand à Étampes. Bonjour.
Bonjour Marine Nicolas, Colombel. Bonjour Serge. Toujours un plaisir d'être avec vous.
Et ben également, plaisir partagé. Autrice donc chez Marabout pour ce nouvel ouvrage. Vous étiez venu nous voir pour Écoute tes émotions pour te libérer, sortir des ruminations mentales l'année dernière, je crois. Vous étiez venu en 2022-2023 et vous revenez cette saison, cette année pour votre petit dernier, Je lutte contre la fatigue mentale, paru chez Marabout, dans la continuité, on va le découvrir, de vos livres précédents, mais tout à fait innovant, puisque consacré à un symptôme extrêmement banal, la fatigue. Mais cette fatigue, elle est étudiée sous l'angle de sa composante mentale. C'est l'heure de notre première partie, le grand entretien avec le docteur Serge Raffal, qui est en pleine forme.
Radio J.
Réfois, Serge et Nicolas Raffal. Radio J.
Docteur Colombel, bonjour.
Bonjour.
Ravi de vous retrouver. Votre ouvrage, Nicolas vient de le dire, est un complément indispensable aux deux précédents. Nous reviendrons par conséquent sur les émotions et les ruminations qui sont souvent impliquées dans le mal-être et la fatigue mentale. Nous définirons cette dernière, en détaillerons les causes avant que vous nous donniez les moyens de s'en extraire ou de la réduire grâce à des aménagements ou des modifications dans le mode de vie et à l'aide de nombreux exercices pratiques à scanner à l'aide d'un QR code, donc facile à mettre en œuvre immédiatement ou en fonction des besoins et des situations. Et nous évoquerons en deuxième partie de notre magazine le burn-out dont vous êtes une spécialiste. Vous avez ouvert à Étampes une consultation dédiée.
Tout à fait.
Voilà, alors la fatigue mentale, c'est une plainte qui se généralise puisqu'elle concernerait, dites-vous, 17% des adultes.
Oui, alors c'est une plainte qui est très globale, donc il faut voir qu'en fait la fatigue, on est vraiment sur un continuum de la normalité jusqu'à la pathologie, on peut avoir des degrés très différents, et la fatigue est généralement la première cause de consultation chez les généralistes. Quand les généralistes posent la question, il y a à peu près un tiers de leurs patients qui leur répondent qu'ils sont fatigués. Donc on est vraiment sur une plainte qui est globale, qui peut aller sur une simple fatigue, on verra quelques pistes pour aller la traiter ensemble, prendre soin de notre corps et notre mental, jusqu'à parfois des processus pathologiques, par exemple le burn-out, qui est vraiment un cas d'épuisement dans le cadre professionnel.
Et vous la décomposez en fatigue physique, émotionnelle, mentale, existentielle, et vous expliquez qu'elle s'installe dans le temps. Une fatigue normale, on vient de faire un effort, Nicolas fait 3 heures de musculation ce matin, il a le droit d'être fatigué. Par contre, elle devient pathologique à partir du moment où elle s'installe de façon chronique.
Quand elle s'installe et on ne récupère pas finalement, c'est normal d'être fatigué, je le répète. Lorsqu'on va solliciter une fonction de notre organisme, que ça soit le corps, mais ça peut être aussi le mental, hein. Par exemple, on a des journées où il faut beaucoup se concentrer, ou des journées où on va avoir un vécu émotionnel intense, la fatigue va s'installer à chaque fois dans la sphère qui a été sollicitée. Fatigue émotionnelle, fatigue mentale ou fatigue corporelle. Ce qui est important, c'est que cette fatigue, si on fait une grosse nuit de sommeil, qu'on récupère bien pendant la nuit, normalement, le lendemain, elle doit partir. On est vraiment sur quelque chose qui doit être fluctuant. Par contre, si la fatigue commence à s'installer sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, attention, le sommeil ne fait plus son rôle. Il faut aller se questionner sur l'origine de cette fatigue.
Je vous expliquais qu'elle peut conduire à l'épuisement mental qui correspond à la consommation complète de nos réserves d'énergie. Alors, j'aimerais qu'on dise un mot sur les causes de cette fatigue mentale.
Alors, c'est vrai que la fatigue mentale, c'est extrêmement large. Comme je dis, c'est un vrai continuum. Alors, la fatigue aiguë, ça peut être simplement l'utilisation d'une de nos ressources cognitives à un moment donné.
La préparation d'un examen.
Je me prépare un examen, je dois beaucoup me concentrer, je dois faire beaucoup de phases d'apprentissage. Je vais avoir de la fatigue dans cette cognition-là. Par contre, si on la laisse s'installer sans laisser de moments de ressources, de moments pour remonter l'énergie, on arrive dans le cadre plutôt de l'épuisement. C'est le dépassement finalement de la fatigue qui là aura des conséquences pas que sur la sphère mentale, mais qui aura des conséquences également sur le corps. Donc ça, c'est quelque chose d'important à dire. Une fatigue mentale, lorsqu'elle est importante, les premiers symptômes ne vont pas être portés par l'esprit, ça va être porté par le corps, par une fatigue corporelle, par des douleurs, parfois par le fait, par exemple, d'être plus sensible aux infections hivernales. Donc on fait attention, il y a un lien vraiment étroit entre le corps et l'esprit.
Parmi les signes de la fatigue mentale, vous l'avez dit, il y a un impact sur le corps, mais aussi sur les comportements, sur les relations sociales.
Alors il y a toujours un lien avec les deux. Pourquoi ? Parce que les relations sociales sont étroitement liées à la gestion émotionnelle, évidemment. Et on sait que la gestion des émotions, la régulation des émotions est une partie très consommatrice d'énergie. Les émotions, lorsqu'on est fatigué, on va les ressentir comme tout le monde. On va sentir la joie, la tristesse, la colère. Mais la différence, c'est qu'on va perdre notre filtre. Ça veut dire qu'on va devenir poreux à l'environnement, un peu comme j'ai avec mes patients, un peu comme une éponge émotionnelle. Un petit exemple pour savoir si vous êtes vraiment fatigué au niveau émotionnel, c'est regarder un film. D'un seul coup, vous vous mettez à pleurer parce que la scène est triste. Lorsque mes patients me racontent ça, ils me disent d'habitude, je pleure pas devant tel film. Là, je me mets à pleurer vraiment comme si c'était quelque chose de personnel pour moi. Là, on voit qu'il y a un problème de régulation émotionnelle. Pourquoi ? Parce que la fatigue s'est installée, qu'on a perdu notre capacité de filtre.
Entre les émotions, les ruminations, qui étaient l'objet de votre précédent ouvrage, là et aussi,
les ruminations,
intervenir.
C'est exactement le même processus, en fait.
Émotions à leur acmé, c'est
tout
ça ?
Tout à fait. Lorsqu'on a une émotion forte, souvent, on a les pensées qui sont connotées dans la même émotion qui vont revenir. Imaginons un moment où vous êtes triste, très probablement, vous allez penser à des choses tristes. Et ça va faire que renforcer les émotions. Lorsqu'on n'est pas fatigué, qu'on est en forme, on va prendre un peu de distance. Bon, allez, je laisse passer ça, je vais penser à autre chose, je vais sortir, je vais faire du sport, ça va me faire du bien. Lorsqu'on est fatigué, ce filtre, on va pas l'avoir, on va pas se rendre compte qu'on est bloqué dans une rumination. Et on va avoir tendance justement à augmenter les pensées, augmenter les émotions et vider encore plus l'énergie. On est vraiment sur un processus finalement qui s'autogénère.
Vous expliquez que les effets de la fatigue ont évidemment un retentissement sur les fonctions cérébrales et certaines structures anatomiques.
Alors particulièrement sur les cognitions qui consomment beaucoup d'énergie. Donc on en a parlé, par exemple, tout le système limbique, qui est le système de régulation des émotions, est particulièrement sensible, mais pas que. Tout ce qui va être de l'ordre plutôt exécutif, donc ça c'est le lobe frontal. Qu'est-ce que c'est que les fonctions exécutives ? C'est le fait de pouvoir faire les tâches dans le bon ordre. Lorsqu'on est très fatigué, par exemple, la cuisine devient très compliquée. Pourquoi ? Parce qu'on va oublier les casseroles sur le feu. On va oublier une des étapes importantes qui fait qu'à la fin, notre plat n'aura aucun goût ou va être raté. Donc ça, c'est un bon signe. Si vous n'arrivez pas à vous concentrer sur des choses de la vie simple parce que vous n'arrivez pas à faire les bonnes étapes, c'est souvent un signe de fatigue. Une troisième cognition qui me paraît importante à voir pour la fatigue, c'est la perte de la mémoire, la mémoire qu'on appelle entérograde, c'est-à-dire la mémoire de tous les jours. Pourquoi ? Parce que là aussi, ça demande un certain type d'énergie. Pour mettre en mémoire une information, il faut rester attentif un nombre de temps nécessaire pour mettre en mémoire. Si vous êtes très fatigué, vous n'arriverez pas à rester assez attentif et vous ne mettrez pas en mémoire. En conclusion, comment ça se traduit dans la vie de tous les jours ? Vous allez sans arrêt oublier vos clés, vos lunettes, vous allez oublier votre rendez-vous et vous allez être une sorte de poisson rouge. Simplement, pas parce que vous avez des troubles cognitifs. Je rassure mes patients, je leur dis non, c'est pas un Alzheimer précoce. C'est juste que vous êtes trop fatigué et vous n'arrivez pas à mettre en mémoire.
Les états physiologiques qui entraînent la fatigue, vous dites l'adolescence, la grossesse, le vieillissement.
Alors ça, c'est des périodes particulières où la fatigue est quasiment physiologique. Pourquoi ?
L'ado est fatigué ?
L'ado est fatigué, naturellement. Bah,
personne
n'est
âgé, je comprends, mais l'ado ?
L'ado est fatigué, parce que l'ado grandit.
Il
manque de sommeil, évidemment. Donc ça, c'est la question aussi des portables actuellement qui s'introduit dans la chambre de l'adolescent. Et surtout, l'adolescent doit remanier énormément son cerveau. On sous-estime la quantité d'informations qu'un adolescent doit faire. Sa personnalité est en train de se forger, ses choix sont en train de se faire, ça consomme énormément d'énergie. Donc l'ado est naturellement fatigué.
Alors, les solutions face à la fatigue mentale sont multiples. Vous dites, il y a un ordre. Elles portent d'abord sur le corps, puis sur le mental, sur les émotions et sur les problèmes existentiels. C'est le plan de votre ouvrage. On va le reprendre. Comment, bon, favoriser le repos corporel, ça, je pense que c'est assez simple.
Pas tout le temps.
Pas tout le temps.
Pourquoi pas tout le temps? Parce que souvent, c'est celui qui passe un peu de côté. On écoute rarement son corps. Imaginez que vous êtes dans une situation où vous travaillez beaucoup, vous n'allez pas forcément faire le lien entre votre fatigue liée au travail et le fait d'avoir des douleurs corporelles ou d'avoir des troubles digestifs, par exemple. Donc il faut vraiment repartir dans l'idée que le corps et le mental ne font qu'un. On ne peut pas les séparer l'un de l'autre, il faut réinvestir ce corps. Et ben, on le verra tout à l'heure, mais le premier chemin pour travailler sur cette fatigue, ça va être de réintroduire la notion du corps, de réintroduire l'écoute du corps en premier lieu.
Et pour se détendre et reposer le corps, la respiration qui est très très importante.
Et tout à fait centrale. Pourquoi elle est centrale? Parce que la respiration est intimement liée à un système nerveux qu'on appelle le système nerveux autonome. Et une respiration longue va favoriser ce qu'on appelle le système parasympathique et le système nerveux du repos. Donc le simple fait de méditer, mais tout simplement, par exemple, de bien respirer, de se poser, fait que notre corps va se mettre au repos via la respiration. Et beaucoup d'organes vont suivre la respiration, notamment le rythme du cœur. La fameuse cohérence cardiaque est basée dessus. Lorsqu'on va rallonger la respiration, lorsqu'on va approfondir la respiration, le rythme du cœur va baisser, la tension va baisser.
Comme exercice, je l'ai utilisé depuis, vous aviez évoqué la respiration carrée.
C'est un petit exercice qui est bien pratique, qui est un peu mon exercice d'urgence avec mes patients. Donc généralement, je leur apprends à respirer naturellement dans les phases où ça va plutôt bien. Mais des petits trucs comme la respiration carrée, lorsqu'on est en moment de crise, est très utile.
Une respiration à quatre temps.
Alors, c'est une respiration à quatre temps où chaque temps est égal. Et on compte les temps de ce qu'on appelle de rétention. On inspire, on retient la respiration, on expire et on est poumon vide. Et on va essayer d'avoir le même temps. Alors, soit on compte tout simplement sur quatre ou cinq temps, ou alors, moi j'aime bien me dire une petite phrase qui va rythmer finalement le carré. Donc la phrase, après, elle est personnelle. Je pense que c'est justement important peut-être de mettre quelque chose qui nous fait sens, qui parle à nos valeurs à ce moment-là pour, en plus, augmenter l'effet de la respiration.
Trouver le repos mental, là, c'est la spécialiste des TCC, des techniques comportementales, de la méditation, de la relaxation. Et vous expliquez, vous dites que la fatigue mentale est liée à trois types de pensées qui pèsent sur les réserves d'énergie. Les pensées toxiques, les ruminations et la charge mentale. Alors, comme on a déjà parlé des ruminations, peut-être vous pouvez nous dire un mot sur la charge mentale.
Alors, la charge mentale, c'est intéressant. On l'entend souvent pour les femmes. Il faut savoir que les hommes aussi peuvent très bien avoir une charge mentale. C'est pas sexué comme problème. Qu'est-ce que c'est que la charge mentale? C'est le fait, en fait, de ne pas vivre au moment présent. On va être en train de se projeter sans arrêt dans le futur. Lorsqu'on est au travail, on va imaginer... On va penser, par exemple, aux rendez-vous médicaux qu'on va avoir avec les enfants, quelles courses je vais devoir aller faire, comment je vais gérer mes vacances, par exemple. Et finalement, on va avoir tout qui va se déposer en même temps dans le temps présent et à faire que la charge, finalement, on ne va pas pouvoir s'en sortir parce que tout va s'accumuler. Donc, la solution pour sortir de la charge mentale, hélas, souvent, ce n'est pas forcément enlever les activités. Souvent, c'est des activités qui sont obligatoires, il va falloir les gérer. Par contre, on va essayer de se remettre vraiment au moment présent et refaire chaque chose au moment où on le fait.
C'est le ici et maintenant.
Le ici et maintenant. Le hic et nunc des Romains qui disaient on revient au moment présent à l'action que je suis en train de faire. Quand je suis au travail, je suis au travail. Quand je joue avec mes enfants, je suis en train de jouer avec mes enfants. Quand je suis dans la douche, je suis dans la douche. Et là, si on remet chaque chose à sa place, finalement, on va pouvoir sortir de cette charge mentale et réussir à enchaîner des tâches parfois complexes et en utilisant beaucoup moins d'énergie.
Vous donnez un petit moyen là, dans votre ouvrage pour s'alléger, c'est-à-dire classer les tâches en fonction de leur urgence et leur importance. Et donc, il y a un petit carré, il y a urgent et important, pas urgent et important, urgent mais pas important et pas urgent.
Alors, c'est simple, c'est hyper efficace. C'est la matrice d'Eisenhower. Bon, on l'a pris du président, mais ce n'est pas lui qui avait inventé la matrice. Ça vient d'une de ses citations, qui fait qu'en en fait, on se prend la tête, on considère comme urgent beaucoup de choses qui ne le sont pas. Donc, il faut apprendre à remettre de l'importance aux choses. Évidemment, tout ce qui est urgent, important, on va le faire en priorité. Ce qui est important, mais pas urgent, on va commencer à planifier. Ce qui est ni urgent, ni important, bah, on va se délester un peu. Donc, on va vraiment trier toutes les informations et mettre, et changer l'importance qu'on met à chaque chose. Et si on fait ça, on se rend compte que finalement, bah, les choses très urgentes et très importantes, elles sont extrêmement minoritaires.
Vous êtes très adepte du bloc-notes, parce que même pour le sommeil dont on parlera peut-être tout à l'heure, vous dites, voilà, faut noter très très vite. Donc là, le classement, je pense que...
Par exemple, ce qui est important, c'est de ne pas laisser tout dans le cerveau. Donc, bloc-notes, téléphone, peu importe. Ce qui est important, finalement, c'est de décharger de toutes les informations qui sont superflues pour pouvoir, nous concentrer sur l'essentiel.
Après, bien évidemment, pratiquer le repos émotionnel. Donc, on revient aux émotions. On imagine qu'elles sont importantes dans la fatigue mentale. Vous dites, il faut les écouter, les émotions.
Ça va être important. Pourquoi ? Parce qu'on en a déjà parlé ensemble. Les émotions ont un vrai rôle à jouer. Elles servent à quelque chose dans notre vie. Les émotions, ça sert à s'adapter en temps réel à ce qui se passe, aux changements environnementaux.
À survivre même,
dites-vous. À survivre, c'est vital.
Bien évidemment, parce qu'il y a 4 émotions qui sont positives, une neutre, une qui est négative.
Non, 4 négatives, une seule positive.
C'est dans l'autre sens. Une positive, la surprise, oui.
C'est dans l'autre sens, et c'est pour ça que c'est important. Donc si on reçoit les grandes émotions d'Ekman, donc tristesse, colère, dégoût, il manque toujours une quatrième, c'est pas grave. La joie, la surprise et la peur. Voilà, j'avais oublié la peur. Si on prend les connotations, on voit qu'il n'y a qu'un négatif pour une seule positive. Pourquoi ? Parce qu'elles sont vitales. Si je n'avais pas peur, je me mettrais sans arrêt en danger. Si je ne sentais pas le dégoût, je mangerais n'importe quoi et je serais malade. Donc on voit qu'il y a vraiment un rôle qui est physiologique, qui est un rôle de survie. Heureusement, pour contrebalancer, on a la joie. Sinon, on n'arriverait pas à se motiver tous les matins pour se lever. Donc il y a une sorte de balance qui va se faire. En tout cas, ces émotions, elles ont un rôle, elles servent à quelque chose. Alors, pourquoi les émotions nous coûtent au niveau de l'énergie? Pourquoi elles nous fatiguent? Tout simplement parce que ces émotions, on va les passer sous le tapis. On ne va pas les écouter généralement parce qu'on est dans la vie tous les jours. Mais l'émotion a un rôle à faire, elle a un rôle à jouer. Du coup, elle va augmenter jusqu'au moment où ça va exploser. On va être obligé finalement d'y faire face. Donc, une des solutions qu'on apprend en thérapie, c'est au lieu de laisser cette émotion monter sans contrôle, on va aller la voir.
Ou aller les mettre sous le tapis,
ouais. On va aller la voir, on va aller la consulter, on va comprendre ce qu'elle est en train de nous dire. Et le fait d'aller vraiment écouter cette émotion fait que elle va se décharger. Elle va juste nous traverser, mais elle ne va pas s'arrêter. Du coup, elle va coûter moins d'énergie.
Et là, on revient sur la respiration, qui est le centre de régulation des émotions.
On est vraiment dans un rôle central qui est vraiment, on appelle souvent ça aussi la safe place, le lieu de sécurité, la respiration. C'est le lieu où on va ramener notre attention, on va observer ces émotions qui viennent et qui partent, et on va essayer en méditation en tout cas d'adopter une posture très particulière avec les émotions, qui est une posture d'acceptation. Ce qui n'est pas facile pour mes patients, par exemple mes patients qui souffrent de dépression, quand ils sont traversés par la tristesse, c'est douloureux pour voir de voir cette tristesse qui les traverse. Et pourtant, ça va être quelque chose de vital parce que le fait d'accepter, de se laisser traverser, d'observer ce qui se passe, fait qu'on va pouvoir laisser l'émotion partir aussi. C'est vraiment donc l'image traditionnelle qu'on utilise notamment au Tibet, c'est que les émotions sont comme des nuages qui passent dans le ciel. Nous, on n'est pas les nuages, on est au-dessus, on est le ciel, et on se fait traverser par les nuages.
Qu'est-ce qu'on fait contre les pensées automatiques ?
De la même façon. C'est exactement la même chose que pour les pensées. Ça veut dire que ces pensées-là, on va essayer de sortir de ces pensées, de ne plus s'identifier à nos pensées et les regarder vraiment de l'extérieur. Un petit exemple, ça sera plus concret. Imaginez que vous avez la pensée automatique « je suis moche » parce que vous avez peut-être entendu la phrase quand vous étiez petit et sans arrêt, vous dites la même chose. Si vous collez à cette phrase que vous pensez qu'elle est vraie, ça va causer de la souffrance, vous allez souffrir de la phrase. Si vous avez cette phrase-là dans la tête, mais que vous dites, non, c'est pas vrai. Je sais que c'est une pensée automatique, je sais peut-être même d'où ça vient, je vais prendre du recul, la pensée ne va plus provoquer des émotions en nous, ça sera juste, finalement, comme un signal électrique qui passe dans le cerveau. Il n'a pas de vérité en soi, comme un nuage.
Vous dites, il faut se libérer, finalement, de la crainte qu'elles inspirent.
C'est quelque chose d'important, difficile. Important, justement, c'est ce fameux écart, le fait de se dissocier des pensées, des émotions. Comprendre que ces émotions et ces pensées, ce n'est pas nous, ce sont que des choses qui nous traversent, qui ne nous définissent pas. Là, lorsqu'on arrive à se dire, bon, elles me traversent, elles vont s'arrêter, c'est quelque chose d'illusoire, c'est quelque chose qui vient et qui passe, elles vont nous faire beaucoup moins souffrir, on va être libéré dans le sens où on peut accepter qu'elles nous traversent, parce qu'on sait qu'elles ne vont pas envahir notre maison. Là-dessus, un fameux poème de Rumi qui s'appelle « La maison d'hôte », où Rumi décrit extrêmement bien le jour où il ouvre la porte, il laisse passer et balayer toutes les émotions de sa maison qui ensuite vont repartir. Le fait d'accepter d'ouvrir cette porte, de se laisser traverser, de laisser partir, nous donne une confiance en nous-mêmes en disant « Quel que soit l'état que je traverse, je sais que je vais rester là. Je pourrai être en présence. »
Quatrième étape, atteindre le repos existentiel.
Étape également très importante, ce repos existentiel, qu'est-ce que c'est ? Il y a certaines fatigues qui arrivent à des moments de notre vie qui ne sont pas forcément liées à des problèmes cognitifs, à des problèmes émotionnels, mais à des choses plus profondes. Par exemple, la question « qu'est-ce que je fais là ? Est-ce que je suis dans le bon chemin de vie ? Est-ce que je suis en train de faire ce pourquoi je suis venu ?» C'est vraiment des questions importantes, je pense que tout le monde à un moment finit par traverser. Là, on arrive sur des questions qui sont de l'ordre de la fatigue existentielle. On ne va pas pouvoir y répondre simplement par une bonne nuit de sommeil. On comprend bien, il va falloir faire un travail là-dessus. Et le travail passe énormément finalement par le travail du sens. Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Et souvent, une des réponses, c'est « je vais aller au contact de mes valeurs ». Quelle valeur, quelle chose est importante pour moi ? Est-ce que c'est l'amitié ? Est-ce que c'est l'amour ? Est-ce que c'est la liberté ? Je vais réinvestir dans ma vie de tous les jours ces valeurs pour finalement y mettre un sens. Mettre un sens parfois à des choses qui n'ont pas de sens.
On dit parfois, enfin la valeur c'est un mot valise, vous pouvez préciser un tout petit peu
valise,
sur ces
valeurs. Valise, mais c'est important.
C'est important, un gros bagage alors.
C'est un gros bagage, la valeur. Qu'est-ce que c'est qu'une valeur ? C'est un moteur de vie. C'est quelque chose qu'on a en nous depuis nos naissances, qui va nous accompagner jusqu'à notre mort, et qui va être à la base finalement de nos choix de vie, qui va être le moteur de notre vie, c'est ce qui va nous motiver finalement à nous lever tous les matins. La valeur, on est vraiment sur quelque chose quasiment énergétique. Ça veut dire que quand on est dans notre valeur, on va consommer assez peu d'énergie parce qu'on va mettre du sens, on va fabriquer du sens. Et ce qui est important, c'est que les valeurs sont individuelles. Ça veut dire qu'on a chacun nos valeurs. Nos valeurs vont pouvoir, dans certaines familles, s'exprimer. Dans d'autres, peut-être qu'elles ne vont pas pouvoir s'exprimer parce qu'il n'y aura pas le terreau nécessaire pour qu'elles grandissent. Mais en tout cas, elles seront quand même là. Ça veut dire que des fois, changer de mode de vie, changer de lieu fait que certaines valeurs qui étaient en état latent vont pouvoir se développer et fleurir sous un nouveau mode. C'est-à-dire qu'on est dans quelque chose qui existe tout le temps, mais qui a la possibilité soit de sortir, soit de s'épanouir et de s'exprimer dans la vie, soit rester un peu sous forme de graines en nous. Et à chaque moment de la vie, on a la possibilité de retravailler avec.
Pour terminer cette première partie, un petit mot sur les petits papiers, les 10 petits papiers.
Les petits papiers avec les choses qui nous font plaisir.
Bien sûr.
Alors ça, c'est une petite activité que je propose à mes patients, justement, quand le moral n'est pas très bon. Je leur dis, vous prenez des petits papiers, vous mettez des petites choses qui vous font plaisir. Et simple, hein. Pas aller à Disneyland, des choses qu'on peut faire tous les jours. Manger une glace, faire un bon bain chaud, appeler tel ami parce qu'il fait du bien. Vous prenez un vase, vous mettez tous les petits papiers, le jour où vous sentez que le moral baisse un petit peu, et toutes les 2-3 heures, vous allez prendre un petit papier, vous allez faire l'activité qui est marquée. Et vous allez voir que ces petites sources de plaisir, qui sont des petits, finalement, des petits shoots de dopamine personnelle, fait que la machine va se relancer et que probablement, le lendemain, vous irez mieux.
Docteur Colombel, merci pour cette première partie. On s'aperçoit, Nicolas, que la fatigue mentale n'est finalement pas une fatalité.
Et bien sûr, on va continuer d'en parler. On va parler du burn-out dans cette deuxième partie. Ça me faisait penser à la chanson « Les petits papiers ».
Régine.
Moi, je pensais que Serge Turpin, qui réalise cette émission depuis une bonne cinquantaine d'années maintenant, allait nous proposer les petits papiers de Régine, mais je sais pas. Il a peut-être une fatigue mentale ce matin, notre réalisateur Serge. Ah, je le prends au dépourvu. Ah, bon, on se retrouve pour
on terminera par les
papiers. Allez, on terminera par les petits papiers. À tout de suite.
Radio J.
Réfois, Serge et Nicolas Raffal.
Radio J, le 6-9, Hélène Ferradian.
Tous les matins à 7h45 sur Radio J, Christophe Barbier.
Je vous retrouve tous les matins dans le 6-9 d'Hélène Ferradian avec un invité politique chaque jour. C'est le Barbier du matin.
C'est tous les jours à 7h45 sur Radio J.
Radio J.
Réfoua, Serge et Nicolas Raffal. Radio J.
Laissez parler les petits papiers.
Habituel, Nicolas.
Mais moi, Régine, c'est toute ma vie, Régine. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Et les auditeurs chantent chez eux. Et oui, les petits papiers du docteur Marine Colombelle. Je ne sais pas si c'est exactement les mêmes que ceux de Régine. Hein, voilà, mais voilà, on en a parlé dans cette première partie. Tout ça pour vous dire qu'on est de retour avec le docteur Marine Colombelle. Je lutte contre la fatigue mentale et pour les gens qui nous rejoignent. Et parce qu'on a parlé de ces petits papiers sur lesquels il fallait noter voilà, des idées, comme des sortes de mantras un peu.
Ah, ce n'est pas des mantras, c'est des petits plaisirs.
Des petits plaisirs.
C'est un mantra, c'est un plaisir. Réintroduire les petits plaisirs du quotidien, finalement, c'est eux qui font le bonheur.
Oui, absolument, absolument. Les émotions, vous dites que c'est des états temporaires qui ne sont pas nous. Je trouve étonnante cette pensée. Est-ce que vous pouvez la détailler? Comment est-ce qu'une chose qui nous concerne ne serait pas nous?
Ça, c'est très, très oriental comme vision du corps et du mental. Comme on a dit tout à l'heure, les émotions sont simplement là pour faire qu'on s'adapte en temps réel à ce qui se passe autour de nous. Ça nous donne un message, mais nous ne sommes pas le messager. Nous sommes celui qui reçoit le message. C'est pas la même chose. Et remettre les émotions à leur place et finalement accepter leur rôle, accepter le message, mais sans forcément se prendre pour le message. C'est quelque chose qui est fondamental parce que ça nous remet de la liberté d'avoir parfois, par exemple, des émotions contradictoires au même moment. Ça peut expliquer, parfois, par exemple, pourquoi on est en colère et en joie en même temps. Tout simplement parce qu'on peut également avoir des messages contradictoires qui nous traversent. Ce qui est important, ce ne sont pas les émotions, c'est comme on a dit tout à l'heure, c'est le ciel qui les accueille. Mmh. C'est notre être qui est là et qui va avoir une forme de continuité entre eux. La mort est entre la naissance et ensuite la mort qui fait que on se sent nous-mêmes, quel que soit l'état qui nous traverse.
Pour les personnes qui nous rejoignent en deuxième mi-temps de Réfoua, on en a longuement parlé dans la première partie. C'est vrai que ces émotions, ces ruminations mentales, vous avez dit dans la première partie qu'il fallait pas chercher à les bloquer, à les fuir, et qu'il fallait en quelque sorte pratiquer cet aïkido un peu de la vie, accepter le nuage qui passe.
Ouais. Pourquoi? Parce que finalement, on n'est pas maître du fait d'avoir ou pas des émotions. C'est des états qui nous traversent, qui ont un rôle. Et si vous vous dites, bah non, je refuse, je ne me mettrai pas en colère, ça ne marchera pas. Il suffit qu'une de vos valeurs soit attaquée, la colère va monter toute seule. Ce que vous pouvez faire, par contre, c'est l'accueillir, l'observer, la comprendre et la traiter. Ce qui n'est pas du tout la même posture. Et lorsque justement on arrête de bloquer les choses, on arrête par exemple de bloquer une pensée négative, quelque chose qui nous fait souffrir, on dit bon bah ça va me traverser et ça va partir, ça va éviter justement de fixer et ce travail de lutte. Ce qui fait souffrir souvent lorsqu'on a une émotion forte, lorsqu'on a des ruminations, c'est ni la nature de l'émotion, ni la nature de la rumination, c'est le fait d'être sans arrêt en lutte contre. Mmh. Ça veut dire essayer qu'elle ne nous envahisse pas. Lorsqu'on fait ça, finalement on fixe notre attention sur ce qui est négatif. C'est là où on va souffrir.
Ouais, vous dites qu'on ne peut pas contrôler les pensées toxiques qui arrivent, qui sont en nous, mais qu'on peut contrôler en fait le degré, l'attention qu'on leur porte.
Tout à fait. La seule chose qu'on contrôle dans notre vie, c'est notre attention. C'est déjà beaucoup. Parce que l'endroit où on va poser notre attention dicte finalement ce qu'on va percevoir de la vie. Donc on est maître de l'orientation de l'attention. Si on décide de sortir des pensées, de juste de les observer, d'arrêter, comme je dis souvent, arrêter de parler avec, arrêter de leur donner du grain à moudre, vous allez voir que votre pensée, par nature, va partir. Parce qu'une pensée, c'est un signal électrique, pas plus.
Vous essayez de la localiser dans le corps, il y a des exercices.
C'est très intéressant, ça. Pourquoi c'est très intéressant? Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a beaucoup de liens entre le corps et l'esprit. Le corps est toujours le lieu de fixation de certaines pensées, de certaines émotions, de certains souvenirs aussi. Tout ne se passe pas que dans la tête. On a un corps, on a un esprit, les deux sont sans arrêt en interaction. On peut avoir certaines douleurs, par exemple corporelles, qui sont liées à certaines émotions, à certaines pensées qui nous font souffrir. Aller travailler directement dans le substrat du corps, aller écouter ces douleurs, aller écouter ces sensations, permet, par effet secondaire, d'aller travailler les pensées qui ont été la source finalement de cette douleur physique.
Alors on parle du burn-out à présent. C'est le burn-out, terme anglais, voilà, qui veut dire c'est une brûlure qui sort de l'intérieur, mais qui, voilà. C'est au-delà de la rumination, des ruminations mentales. Là, c'est carrément un épuisement, une sensation d'épuisement, alors qui peut venir de plusieurs formes et de plusieurs façons. Épuisement professionnel, épuisement, vous en avez parlé, docteur Serge Raffal, épuisement existentiel aussi, le questionnement.
Alors, si on revient purement sur le mot de burn-out, c'est un épuisement qui est lié au professionnel. Pourquoi j'insiste autant ? Parce que, du coup, les causes vont être liées au monde professionnel et les solutions aussi vont rentrer dans le monde professionnel. Ce qui ne veut pas dire que les autres types d'épuisement n'existent pas. On peut avoir un épuisement existentiel, on peut avoir un épuisement familial. On entend souvent parler, par exemple, de l'épuisement maternel. Par contre, c'est un peu trop de parler de burn-out, parce que le burn-out, il faut absolument cette notion de professionnel dans l'épuisement.
Ça fait combien de temps qu'on en entend parler ?
Pas très longtemps. Ouais. Pas très longtemps, parce que, tout simplement, ça n'existait pas jusqu'à une certaine période. Les premières descriptions de burn-out, donc, c'est en français.
70,
même avant, on a le tout premier, avant que le terme de burn-out existe, c'était Claude Weil, qui était un psychiatre français, qui avait fait la première description du burn-out, en appelant ça épuisement professionnel, parce que c'était un français. Donc on est dans les années fin 50, début 60. Ensuite, ça s'est bien développé dans les années 70, notamment avec Freudenberger. Et enfin, vraiment, la personne qui a vraiment bien formalisé le burn-out, qui a identifié les signes cliniques, les syndromes, c'est Christina Maslach, qui a fait un énorme travail. Et donc quasiment tous les travaux actuellement de recherche sont basés sur le questionnaire, par exemple, de Christina Maslach depuis les années 80.
Comment on le décèle ?
Alors, il y a trois grands types de symptômes qu'on va aller chercher. Les premiers types de symptômes, c'est les symptômes qu'on appelle d'épuisement émotionnel. C'est un peu ce qu'on a parlé tout à l'heure. Ça veut dire qu'on perd notre filtre émotionnel. Les gens vont être très poreux, vont être très sensibles, voire hypersensibles à leur environnement. Ils vont pleurer facilement. Ils peuvent être irritables, ils peuvent être colériques. Leur corps, évidemment, va parler également. On va toujours avoir des symptômes corporels dans le burn-out.
Une somatisation.
On a toujours des somatisations. Si on ne les a pas, c'est qu'on n'est pas allé les chercher à chaque fois. Donc, il faut aller vraiment questionner les douleurs, les troubles digestifs. Et on peut vraiment avoir tout. Moi, j'ai, par exemple, des patients qui ont décompensé leur diabète sur un burn-out. D'autres gens qui vont décompenser un asthme déjà préexistant. On peut avoir aussi, par exemple, des problèmes cutanés avec l'apparition des eczémas. C'est vraiment très propre à chaque individu, mais les somatisations sont toujours là. Ça, c'est le premier type de symptômes. Lorsque le burn-out continue à évoluer, le deuxième type de symptômes qui apparaît, c'est ce qu'on appelle la dépersonnalisation, dans le sens où on va se couper des autres, où on va considérer tous les autres gens comme des gens qui vont nous piquer le peu d'énergie qu'on a. Alors, c'est quelque chose qui provoque beaucoup de culpabilité pour les gens qui ont des burn-out parce qu'ils vont avoir tendance à repousser même des gens qui sont gentils, des gens qui leur veulent du bien au fond. Ça va être vécu un peu comme des persécuteurs. Troisième type de symptôme, alors là, on a le burn-out entier, c'est un effondrement du sentiment d'accomplissement professionnel. On ne trouve plus notre compte, on ne se nourrit plus psychologiquement de notre métier. On remet même parfois en cause nos compétences, qui peut être très triste dans certaines situations. Moi, j'ai des patients qui ont 20 ans, 30 ans de métier, qui sont vraiment experts dans leur métier. Au bout d'un burn-out, ils remettent complètement en cause leurs compétences à cause de cet effondrement.
Et sur la dangerosité, ça peut amener vers où ?
Alors, le burn-out, c'est vraiment une question. Alors, on est vraiment sur une notion de processus et pas d'état. Comment on fait la différence ? Un état, par exemple, une dépression, c'est toujours pareil. Pendant au moins 15 jours, on va sentir la tristesse, la souffrance et on sera toujours pareil. Le burn-out, on est dans un processus qui est beaucoup plus évolutif. C'est vraiment une énergie qui baisse et qui peut remonter assez rapidement. Lorsqu'on arrive sur un burn-out très élevé, ça peut aller jusqu'aux idées, voire à l'acte suicidaire, sans dépression associée. Attention, le burn-out peut conduire au suicide et en espérant que les gens soient pris en charge bien en amont, évidemment, pour mettre en place des solutions avant d'arriver à telles extrémités.
Vous dites que le burn-out, ce n'est pas obligatoirement une dépression.
Non, c'est rarement même. D'ailleurs, il n'y a que 10% des burn-out qui sont liés avec un syndrome dépressif. C'est-à-dire que 90% du temps, le burn-out n'a pas de dépression associée. C'est un processus à part entière.
On continue la discussion dans quelques instants. On va passer à la chronique de Vladimir Mitz.
Radio J.
Réfoy, Serge et Nicolas Raffal. Radio J.
Vladimir Mitz, l'homme qui n'est jamais fatigué, l'homme qui observe un lâcher-prise merveilleux, qui est toujours centré.
Zen.
Parce qu'il médite.
Un modèle de
zen. Il médite énormément. Bonjour Vladimir.
Bonjour chers amis. Ben, je voudrais quand même parler des médecins. Parce que parmi les internes en médecine et en chirurgie, il y a des pulsions suicidaires. Malgré tout, parce qu'ils ont été pendant des années exploités.
Vous nous parlez de la fatigue mentale
Chez les praticiens jeunes, notamment, qui sont soumis à des complexes interrogations par rapport à leur métier, au rapport avec les patients, ce qu'on attend d'eux, d'être là en permanence sur le pont. Ce qui fait qu'actuellement, la situation s'est un peu améliorée parce que pour ces jeunes médecins, il y a un temps de récupération qui est obligatoire.
Qui n'existait pas. À votre époque.
Oui, tout à fait, ça n'existait pas.
Tableau opératoire après une garde, c'est ça?
Tout à fait, nous étions obligés d'être toujours là et de dormir à l'hôpital. C'était pour cela qu'il y avait des internats et même des salles de garde. Mais c'était une charge de travail considérable et je dois dire que nous nous y préparons. Il y a une prévention qu'on apprend quand on est jeune chirurgien. On apprend à gérer son temps et on apprend à dormir d'une façon rapide et pendant peu de temps, mais c'est un sommeil qui est réparateur. Je dois dire qu'il y a aussi un deuxième élément qui est très important, c'est pour nous la noblesse de ce qu'on va faire. Si je me souviens de ces années où on faisait des réimplantations, c'est-à-dire des opérations sous microchirurgie, qui pouvaient prendre beaucoup d'heures, en moyenne on compte 3 heures pour réimplanter un doigt. Et donc tout va dépendre de la gravité, en quelque sorte, des cas que nous avions à traiter.
Vous arrivez de réimplanter une main.
De réimplanter même les deux, au niveau des deux mains. Il y avait des plaies de plusieurs doigts au niveau des deux mains. Et quand on a ce travail qui est à faire, on ne peut pas déléguer. Parce que c'est un véritable chantier. Et on ne peut pas se lever à un moment donné en disant celui qui va me succéder, il va bien voir ce qu'il y a à faire. Et donc on est obligé d'aller presque jusqu'au bout de cette intervention. Et j'ai comme souvenir, par exemple, quand dans les très très longues soirées comme ça où nous opérions, à un moment donné, quand je voyais les assistants, parce qu'on n'est pas tout seul quand on est dans une salle d'opération, il y a l'infirmière qui somnole un peu, l'anesthésiste qui endort le malade et qui s'endort.
Qui prend quelques grammes.
Oui. Et puis il y a aussi l'aide opératoire qui est épuisée. Et donc, nous, chirurgiens, on devait être concentrés sur un champ opératoire qui avait quelques centimètres carrés, mais il fallait aussi voir comment ça se passait dans cette équipe. Parce que c'est un travail d'équipe. Et à ce moment-là, ce que moi je faisais, je disais, on arrête pendant quelques instants, et j'emmenais l'aide opératoire faire un peu de jogging dans la cour en pleine nuit, sous l'œil médusé des patients, ceux qui étaient réveillés, qui voyaient passer des jeunes gens qui couraient dans la nuit. Mais cette oxygénation, cette espèce d'éloignement du champ, et le retour sur le chantier, si j'ose dire.
Et de revenir, de se rhabiller.
On était à ce moment-là beaucoup plus frais, et on pouvait conduire cette opération. Et on se souvient de ces petits matins blêmes quand l'équipe changeait, les nouvelles infirmières arrivaient petit à petit, les nouvelles à entrer en salle d'opération. Il y avait cet échange et nous, on était toujours là à opérer. Et puis, quand c'était terminé, que la main était rose, les doigts avaient rosé, qu'on était satisfait de ce qu'on avait fait, cet immense bonheur annulait la fatigue.
Ça pouvait être des interventions de 15 heures
entre 12 et 15 heures, parfois même.
12 et 15 heures.
Oui, qui étaient donc extrêmement longues, mais une prévention. Pas de drogue, le moins de tabac possible, du café en dose relativement limitée, parce que ça fait trembler les doigts et on n'a pas le droit de trembler quand on fait ces opérations. Il y a donc un processus de préparation à cette fatigue, à la différence des militaires qui, je crois, eux, pour ne pas dormir, sont obligés de prendre des médicaments pour rester éveillés. Mais là, ce qui nous garde éveillés, c'est l'intensité du travail que nous devons faire.
Sur cette quinzaine d'heures, vous n'êtes pas pendant 10 heures avec une attention maximum. Il y a quand même il y a des courbes. Il y a des moments où on doit être un petit peu...
Oui, Nicolas, oui, il y a des petits moments qui sont plus légers. Quand
on ne peut pas avoir une attention pendant 10 heures.
Mais quand même, c'est une très haute concentration. Moi, je le compare à ce que fait un chef d'orchestre qui doit diriger un orchestre pendant une très longue symphonie. Il doit connaître par cœur l'ensemble de la partition et il ne doit pas s'arrêter, parce que si lui s'arrête, c'est la faillite du succès de l'orchestre.
Oui, mais c'est rare d'enchaîner toute la tétralogie.
C'est vrai, mais il y a aussi le par cœur. C'est-à-dire que pour nous, l'essentiel pour avoir aussi moins de fatigue, c'est d'essayer de structurer les temps opératoires, les différentes parties de l'opération, qui vont être, par exemple, le patient entre, on le lave, ensuite ce qu'on appelle le parage, c'est-à-dire une sorte de ménage qu'on fait au niveau des plaies pour enlever ce qui est déjà mort et ce qui est vivant. Et puis ensuite, on va s'intéresser au diagnostic des différents dégâts. Et puis ensuite, une fois, je crois que je vous avais raconté que quand on a des lésions simples et des lésions complexes, on va plutôt commencer par traiter les lésions simples, parce que si on ne traite pas ces lésions simples, à la fin, quand on aura fait le gros travail compliqué, on va être un peu évasif et pas aussi performant sur les lésions simples. Et les patients vont dire « Ah, c'est bien, on m'avait remis ma main, mais regardez, mon nez, il est toujours pas droit. » Vous voyez, c'est des détails comme ça.
La cicatrice est très moche.
La cicatrice est très moche. Et donc, il y a ces temps opératoires que l'on doit prévoir dans sa tête, comme un chef d'orchestre, pour aller jusqu'au bout de l'opération et jusqu'au succès. Parfois, malheureusement, c'est l'échec. Alors là, on se lève, et là, c'est la fatigue qui nous tombe dessus. Cette espèce d'épuisement du petit matin en disant, bah non, ça n'a pas marché. Heureusement, c'est rare.
Bon, vaut mieux ne pas tomber sur un chirurgien en plein burn-out.
J'aimerais bien demander son avis au docteur Colomel. On fera quoi pour essayer de récupérer sur des temps aussi longs?
Voilà, c'est assez passionnant parce que finalement, vous avez résumé un peu tout ce qu'on a dit en première partie, l'importance des valeurs. Pourquoi je fais cette opération-là? On voit bien que dans certaines situations extrêmes, comme ces opérations-là, mais aussi chez les militaires, ce qui nous fait bouger, ce qui nous fait sortir de la fatigue, ça sort de la possibilité quasiment du corps. Ça veut dire que lorsqu'on a une valeur, lorsqu'on a un sens qui est là...
Un travail valorisant.
Lorsqu'on a un travail valorisant, finalement, on arrive à solliciter des ressources que l'on ne pourrait pas solliciter dans d'autres circonstances. Et c'est important de voir, enfin, de remettre... ça dans le sens de justement de l'énergie. Quelque chose qui est valorisant va nous apporter de l'énergie. Ça sera peut-être complètement épuisant par la suite. Ça veut dire on va juste faire transporter la fatigue pour après. Mais se rendre compte que finalement, le corps, le psychisme a des capacités qui sont fabuleuses lorsqu'on se met dans une situation où la situation fait sens.
Alors, le problème le plus fatigant, enfin, ce qui nous fatigue le plus, c'est pas les longues opérations, c'est les patients mécontents. Alors ça, c'est une expérience que je pense vous avez tous, parce qu'il arrive que nous ayons des patients qui viennent nous voir, et Raymond Villain, mon maître adoré, avait une formule extraordinaire, c'est que les patients ont une bande passante nulle à certains moments. Ils n'écoutent pas ce qu'on leur dit. Si on essaye d'entrer dans leur discours, ils sont furieux. Donc ils parlent, on essaie de leur dire, mais on va vous expliquer ce qui s'est passé, mais ça ne les intéresse pas. Ils vont de l'avant... Ils sont récriminatifs comme un cercle de doléances en permanence. Et je ne sais pas si c'est votre expérience, c'est très difficile d'arriver à, en quelque sorte, être en empathie avec un patient qui était très difficile. Il y avait, juste avant que vous interveniez, un élément important. Il y avait une étude au Canada qui avait essayé de comparer combien de temps il faut laisser parler un patient avant de prendre la parole. Quand on est des médecins et qu'on avait un patient qui était comme ça, pas content, eh bien c'est 20 minutes. Et c'est très long. Donc le secret serait de laisser parler le patient pendant 20 minutes sans rien dire, en l'écoutant, prendre des notes. Et seulement à ce moment-là, quand le patient a fini d'expurger en quelque sorte toutes ses doléances, tout son vécu, tous ses malheurs, eh bien le médecin peut commencer à dialoguer avec. Alors je ne sais pas ce que vous en pensez de cet état.
On revient sur la notion d'acceptation émotionnelle. Parce que ce qu'on a à faire finalement, c'est par exemple l'émotion de la colère ou de la tristesse qui est en train de s'affirmer face à nous. Et là, la seule posture qui est possible dans ce genre de discussion, c'est l'acceptation du contenu émotionnel de la personne qui est en face, qui a ses propres raisons, qui ne sont pas forcément les raisons du médecin. C'est ça qui rend les choses difficiles, c'est que notre vision n'est pas forcément la même. Nous, on a une pensée de ce qui est bien pour le patient qui n'est pas forcément la pensée de ce qui est bien pour le patient lui-même.
L'acceptation émotionnelle, c'est vous mettez en synchronisation avec le patient, c'est ça?
Ça veut dire déjà, il faut le repérer. Ça veut dire repérer un patient qui est en colère ou qui est triste. Et l'accepter, c'est lui renvoyer avec bienveillance. Par exemple, souvent, je veux dire, je sens que vous êtes en colère. Expliquez-moi ce que c'est que la colère pour vous, comment elle se ressent. Moi, je suis psychiatre, donc je vais retravailler le lien dans le corps avec la colère. On peut très bien dire, mais expliquez-moi la situation qui vous a mis dans cette situation-là de colère. Et là, on sent qu'on va désamorcer. Pourquoi? Parce que le patient est écouté. La colère, il la ressent vraiment. Ou la tristesse, il la ressent vraiment. D'où l'importance pour le médecin d'avoir cette empathie, cette capacité à décrypter en temps réel l'émotion du patient et finalement laisser un peu notre propre émotion de côté. Nous, on peut être soit neutre, soit même avoir de la joie ou avoir une autre émotion qui nous traverse. Il faut savoir la mettre un petit peu de côté pour percevoir l'émotion de l'autre et y répondre de façon adéquate, sans non plus, là c'est le deuxième effet, ne pas partir nous-mêmes dans de la colère ou dans de la tristesse. C'est là où ça devient difficile, la posture thérapeutique. Il faut être à la fois être dans l'acceptation et pas forcément dans la synergie. Ça veut dire qu'on va travailler ça et le but, c'est d'accompagner la décroissance émotionnelle pour arriver sur un terreau neutre où là, on va pouvoir donner des informations beaucoup plus cognitives et factuelles.
La majorité des procès, c'est ce que nous disent les compagnies d'assurance, les procès contre les médecins ou les chirurgiens, viennent non pas seulement d'un manque d'information du patient, mais d'une rupture du dialogue, parce qu'à la fin, le médecin ou le chirurgien explose, se met en colère, et cette colère du praticien vis-à-vis du médecin est tout de suite ressentie comme une insulte, comme une infamie, et cela va propager dans l'esprit du patient le désir de porter plainte en disant que ce médecin n'a pas su l'écouter, n'a pas su l'informer, et
il l'a mal opéré,
voilà. Et donc, c'est quelque chose qui est énorme. Ce que vous dites, c'est très, très important. Mais parfois, il faut dire que c'est dur de fermer sa gueule et d'écouter.
Vous l'avez dit, parfois, vous êtes content de votre geste chirurgical sur une intervention qui est une intervention un petit peu compliquée. Le patient vient et vous fait des griefs.
Exactement. Mais je pense que vous avez connu la même chose.
Je n'opère personne.
Déjà, il faudrait avoir 20 minutes de consultation devant soi. C'est devenu compliqué aujourd'hui d'avoir quelqu'un pendant plus de 20 minutes.
Il y a certaines études qui ont été faites en médecine générale et qui disent que le médecin écoute le patient mais l'interrompt au bout de 21 secondes. Vous parliez-vous de 20 minutes et qu'en général, c'est 20 secondes la première phrase du patient.
On
en
est
moyenne.
Il faut se retenir.
On est toujours avec le docteur Marine Colombel. Je lutte contre la fatigue mentale chez Marabout. C'est quoi la différence entre les TCC, les thérapies cognitivo-comportementales et la psychanalyse, par exemple?
Alors, c'est une approche qui est très différente, déjà qui n'est pas née dans les mêmes endroits. Donc, la psychanalyse est née, évidemment, tout le monde a parlé de Freud. C'est né beaucoup en France. Ça veut dire qu'il y a tout un courant à la fois en France et en Allemagne, donc c'est une origine plutôt européenne. Les thérapies cognitives et comportementales, c'est plutôt une origine américaine, États-Unis. Donc ça n'a pas été vraiment exactement le même terreau. C'est pas la même époque non plus. Et l'approche est différente dans le sens où la psychanalyse, l'objectif, c'est d'aller chercher des conflits qui sont dans l'inconscient, et la libération des symptômes va se faire dans la compréhension finalement de ces conflits qui sont internes. En thérapie cognitive, on ne se situe pas dans le passé, on se situe toujours dans le présent. Ça veut dire que quelle que soit l'origine des symptômes, ça a peu d'importance. Ce qui est important, c'est d'aller répondre à ce symptôme, aller changer donc soit les comportements, quand on est en thérapie cognitive, soit les cognitions, les pensées, les schémas cognitifs, quand on est dans la thérapie cognitive. Et la troisième vague, c'est la vague émotionnelle, donc du mindfulness, c'est travailler sur la conscientisation des schémas. Le simple fait de conscientiser nos émotions, de conscientiser ce qui se passe en temps réel, fait qu'on va sortir des schémas qui nous font souffrir de façon naturelle, de façon plus adaptée. Donc on est vraiment sur des approches qui sont très différentes de la pathologie.
Vous dites que ça, on peut le relier à une activité quotidienne qu'on fait donc tous les jours, la vaisselle, se laver les dents. Oui. Là, on peut vraiment faire de la méditation mindfulness.
Informelle, oui. Alors il faut séparer la méditation formelle et informelle. La méditation formelle, je m'assois, je me mets en posture de méditation et j'observe en soi la méditation. Méditation informelle, je prends n'importe quelle activité du quotidien, ça peut être aussi de la chirurgie. Hein. Je fais mon activité habituelle, sauf qu'au lieu de penser à droite, à gauche, au passé, au futur, je me concentre 100% sur l'activité que je suis en train de faire. Là, je suis en pleine conscience, je fais de la méditation informelle. Donc, il y a beaucoup de gens qui méditent de façon informelle sans le savoir.
Un mot, il nous reste un peu plus d'une...
Ici et maintenant, Nicolas.
Le
ici
hic, et maintenant. Le hic et nunc. Mais dont Serge Gainsbourg, lui, c'était que le hic. Et voilà, on l'embrasse, Serge. Un mot sur les rêves, c'est important parce que tout le monde rêve, mais c'est important de s'en souvenir. Je suis quelqu'un qui ne
vous
se souvient jamais.
Vous avez des tuyaux en plus pour s'en souvenir.
Oui, des petits tuyaux. Alors pourquoi? Alors déjà, le sommeil, je le fais très rapidement, le sommeil, c'est vital. On a besoin de dormir, il se passe plein de choses dans le corps pendant le sommeil.
Rêve,
et le rêve est très important. Le rêve, c'est le lieu de régulation des émotions. Bien rêver égale une meilleure régulation des émotions la journée. Le fait de se souvenir de ses rêves va améliorer la qualité des rêves et donc de la régulation des émotions. Donc il y a des petits trucs pour...
Un autre petit truc, un dernier petit truc, c'est, on l'apprend dans votre livre, que le grand Carl Jung, dans Je lutte contre la fatigue mentale, paru chez Marabout, Carl Jung faisait du mandala.
Ouais.
Ça c'est incroyable.
Il faisait du mandala tous les jours, il dessinait son propre mandala parce que Jung avait compris beaucoup de choses sur la nature de l'inconscient, sur le rapport avec le corps. D'ailleurs, il a fait beaucoup d'écrits, il avait une grande connaissance orientale. Par exemple, il a fait un traité sur la Kundalini, on ne sait pas forcément, mais Jung avait une très grande connaissance orientale. Et il savait que la structure du mandala représentait le psychisme à un temps donné. Donc tous les matins, il se concentrait, il faisait sa forme de méditation à lui, et allait dessiner ses conflits intérieurs, les couleurs, les émotions, les pensées qu'il habitait, sous forme de mandala.
Il y a un modèle d'ailleurs dans votre livre.
J'ai donné un mandala qui est tout à fait en elle-même, on peut faire son propre mandala aussi.
Voilà, paru chez Marabout, on a passé ces trois quarts d'heure en compagnie du docteur Marine Colombel. C'était un plaisir, je lutte contre la fatigue mentale. Je n'ai plus qu'un mot à vous dire, tous à Étampes. Allez, on file à Étampes, j'emmène Vladimir dans ma valise.
Avec plaisir.
Hein, on part 15 jours,
voilà.
On va voir Marine. Et puis Roxane, on embrasse Roxane, parce qu'on a notre plus jeune auditrice qui nous écoute. 3 ans et demi, c'est une fidèle de Réfois. Elle n'a pas loupé une.
Elle se met à la pleine conscience.
À la pleine conscience. Voilà, c'est Roxane, on l'embrasse, elle est là, elle est super. À la semaine prochaine et à la semaine prochaine.
Radio J.
Réfois, Serge et Nicolas Raffal. Radio J. Bonjour à tous, c'est Léa Moscona.
Radio J.
Je vous retrouve tous les matins de 9h à 10h sur Radio J. Les experts ont la parole. Ils nous parlent bien-être, voyage, culture, gastronomie et art de vivre. Le tout dans la bonne humeur.
Le 9-10, Léa Moscona.
À demain. Radio J. Vous écoutez Radio J à Paris sur 94.8.
We'll be right back.
C'est uniquement sur Radio J.
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 Pala, pala, pap.